Bonsoir à tous. On va ouvrir nos Bibles dans le livre des psaumes, le psaume 146. On va donc étudier le psaume 146. Alors, peut-être que certains d'entre vous ont déjà entendu cette prédication. Je l'avais faite pendant le Covid. Mais bon, je suis sûr que ce sera un bon rappel. Et puis, je peux vous dire que moi-même, en la réétudiant, j'ai dû je me rappelais plus, en fait, de ce que j'avais dit. Donc, en fait, ça va tous nous faire du bien d'étudier ce psaume. Donc, le psaume 146. Donc, je lis pour vous le psaume 146. Louez l'Éternel. Mon âme loue l'Éternel. Je louerai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Ne vous confiez pas aux grands, aux fils de l'homme, qui ne peuvent sauver. Leur souffle s'en va, ils rentrent dans la terre, et ce même jour, leurs desseins périssent. Heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, qui met son espoir en l'Éternel, son Dieu. Il a fait les cieux et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Il garde la fidélité à toujours. Il fait droit aux opprimés. Il donne du pain aux affamés. L'Éternel délivre les captifs. L'Éternel ouvre les yeux des aveugles. L'Éternel redresse ceux qui sont courbés. L'Éternel aime les justes. L'Éternel protège les étrangers. Il soutient l'orphelin et la veuve, mais il renverse la voie des méchants. L'Éternel règne éternellement. Ton Dieu, ô Sion, subsiste d'âge en âge. Louez l'Éternel. Donc ce psaume, il est constitué d'une introduction et de deux parties. Donc l'introduction, c'est les versets 1 et 2. Donc c'est un appel à la louange. Les versets 3 et 4 donc, nous recommandent de ne pas mettre notre confiance en l'homme. Les versets 5 à 10 nous invitent à mettre notre confiance en Dieu. Et donc le psaume, il est donc construit sur une opposition entre la faiblesse de l'homme et la puissance de Dieu. Celle-ci étant mise en valeur, donc la puissance de Dieu étant mise en valeur par la faiblesse de l'homme. La forme du psaume, elle est en fait assez similaire à celle du psaume 1, qui met en contraste, d'une part, l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et d'autre part, les méchants. Il y a également un passage de Jérémie qui est à la fois très proche du psaume 1 et de ce psaume, et j'aimerais qu'on le lise ensemble. Il se trouve, si vous voulez bien tourner vos Bibles, dans Jérémie, chapitre 17, versets 5 à 9. Donc on va le regarder ensemble, je vais lire pour vous. Jérémie, chapitre 17, versets 5 à 9. Et en écoutant ce passage, réfléchissez à la similitude qu'il y a avec le psaume. Donc Jérémie, chapitre 17, verset 5. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert et ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée sans habitants. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. Le cœur est tortueux par-dessus tout. Et il est méchant, qui peut le connaître ? Donc, premier verset, « Louez l'Éternel, mon âme loue l'Éternel. » Donc, le psaume commence par... Vous m'entendez là ? C'est bon ? Le psaume commence par un appel à la louange. L'expression traduite « louer l'Éternel », en fait, ce n'est autre que le mot hébreu que nous connaissons bien, « Alléluia ». La syllabe « Yah » étant un diminutif du nom de Dieu, qu'on prononce « Yahweh », et qui veut dire « Je suis ». Et que nos Bibles françaises traduisent par l'Éternel. Ce mot Yahweh, il est traduit dans nos Bibles françaises par l'Éternel. Et j'ai toujours trouvé cette traduction, l'Éternel, très appropriée, car elle rend bien l'idée de celui qui est éternellement, qui a été, qui est et qui sera. Et à cet égard, j'aimerais vous citer un commentaire d'un théologien qui s'appelle Don Carson sur le sens de ce mot Yahweh, donc le mot éternel. Et il dit ceci, « Ce nom suggère que Dieu existe par lui-même, est éternel, complètement indépendant et entièrement souverain. Dieu est ce qu'il est, dépendant de rien ni de personne. Dieu est ce qu'il est, dépendant de rien ni de personne. Nous voulons aussi nous rappeler que Jésus s'est attribué le nom de Yahweh, ce nom de l'Éternel, à lui-même. On le trouve dans plusieurs passages de Jean, dans le chapitre 8. Par exemple, en Jean 8, 24, Jésus dit ceci, il dit « Si vous ne croyez pas que je suis, si vous ne croyez pas que je suis, vous mourrez dans vos péchés. » Donc, il a utilisé une forme dans le langage « je suis ». Donc, il a dit « Si vous ne croyez pas que je suis l'Éternel. » Et donc, quand le psalmiste prononce le mot « Alléluia », c'est aussi Jésus-Christ qui nous invite à louer. Et on verra que ce psaume est très centré, surtout dans la deuxième partie, il est très centré sur Christ. Donc, non seulement le psalmiste exhorte ses auditeurs et ses lecteurs à louer l'Éternel, mon âme, mais il s'ordonne presque à lui-même de le faire. Il dit « Mon âme loue l'Éternel ». Et on pourrait prendre ça comme un impératif, un ordre qu'il se donne à lui-même, une injonction personnelle de louer l'Éternel. Verset 2, « Je louerai l'Éternel tant que je vivrai, je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. » Donc ce verset, il contient une répétition, ce qu'on appelle aussi un parallélisme, qu'on trouve souvent dans la littérature biblique, très souvent. Et donc le psalmiste, il dit la même chose de deux façons différentes, il dit à peu près la même chose de deux façons différentes pour en renforcer le sens. Il y a beaucoup ça dans le livre des Proverbes notamment. Donc pour le psalmiste, l'activité de louer Dieu, c'est une activité qui doit occuper toute notre vie. « Je louerai l'Éternel tant que je vivrai. » Nous nous rappelons la première question du catéchisme que vous apprenez, vous avez appris. Donc, quel est le but principal de la vie de l'homme? Qui peut répondre? Voilà. Glorifier, le but principal de la vie de l'homme est de glorifier Dieu et de prendre plaisir en lui éternellement. Donc, vous voyez, l'idée de louer l'Éternel, tant que nous existons et même jusque dans l'éternité. Également, dans le même ordre d'idée, l'apôtre Paul, en Romains 14, verset 7, nous dit ceci. « En effet, nul ne vit pour lui-même, et nul ne meurt pour lui-même. Car si nous vivons, nous vivons pour le Seigneur, et si nous mourons, nous mourons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. » Martin Luther disait que nous devons mener notre vie, il utilisait une expression latine, coram Deo, qui veut dire devant Dieu. Nous devons mener notre vie, toute notre vie devant Dieu. Et donc toute notre vie doit être préoccupée par cette idée que nous marchons devant Dieu et que nous devons le glorifier, rechercher à lui être agréable et le louer. Maintenant regardons les versets 3 et 4. Ne vous confiez pas aux grands, aux fils de l'homme qui ne peuvent sauver. Leur souffle s'en va, ils rentrent dans la terre et ce même jour leurs desseins périssent. Notre texte, si on le compare à Jérémie, il est assez modéré. Il dit ne vous confiez pas dans les grands, ne vous confiez pas aux fils de l'homme. Le texte de Jérémie, c'est maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Mais donc vous voyez, Jérémie nous éclaire sur le fait que se confier dans l'homme, c'est vraiment quelque chose que le Seigneur condamne. Ce n'est pas un commandement qu'on doit prendre à la légère. On ne doit pas se confier en l'homme. C'est un peu comme si le Seigneur mettait un panneau « danger ». Se confier dans l'homme, c'est quelque chose qui est dangereux. Et les hommes, en fait, nous tous avons une propension quasi religieuse à nous confier dans des hommes, en particulier évidemment dans le domaine de la politique. En France, on a eu des grands hommes, des hommes politiques célèbres, quoi qu'on pense d'eux, il y a eu des gens comme Napoléon Bonaparte ou le général de Gaulle qui ont une renommée considérable dans lesquelles beaucoup d'hommes ont mis leur confiance. Ils ont créé des partis politiques qui même ont continué après leur mort. et même le gaullisme existe encore en France aujourd'hui. Donc il y a des hommes dans lesquels les gens se sont confiés. Personnellement, je peux dire que j'ai vécu suffisamment longtemps pour avoir vu beaucoup d'élections en France, et même en Angleterre où j'habite maintenant. Et j'ai fait plusieurs fois l'erreur de trop mettre ma confiance dans tel ou tel homme politique, me disant que c'était celui qu'il nous fallait pour résoudre tous nos problèmes. Et j'ai toujours été déçu, soit il n'a pas été élu, ou quand il a été élu, eh bien, il ne s'est pas révélé à la hauteur de mes attentes. Hein, donc, mais il y a vraiment, je crois qu'on peut le dire, on a cette propension à mettre notre confiance dans cet homme politique, cette nouvelle figure qui va régler tous les problèmes. Alors, est-ce que ça veut dire que nous devons avoir une attitude désabusée et cynique envers la politique ? Non, mais notre attitude doit prendre en compte le Dieu qui est au-dessus de la politique. Parce que nous savons que Dieu est parfaitement souverain. C'est lui qui met les dirigeants au pouvoir. Même ceux qui ne sont pas chrétiens, et la plupart ne le sont pas. C'est lui qui a fait émerger, par exemple, Cyrus, donc le roi, l'empereur de Perse, et qu'il est allé jusqu'à appeler avec le terme de « ouin », ce qui veut dire « messie », et par lequel il a fait sortir Israël de la captivité. Et pour ce qu'on sait, Cyrus n'était pas un croyant. Et nous avons eu aussi, nous, dans nos pays, en Europe, en France, en Angleterre, des hommes politiques qui ont fait du bien pendant un certain temps au pays. Un peu comme les juges dans le livre des juges, envoyés par Dieu pour délivrer le peuple à un moment précis. Mais toutefois, ce n'est pas en ces hommes que nous devons nous confier, c'est dans le Dieu qui les a mis en place. Car il est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Il est au-dessus d'eux. Nous ne devons pas nous confier en ces hommes pour plusieurs raisons. Tout d'abord, parce qu'ils sont pécheurs. J'ai volontairement lu tout à l'heure le verset 9 de ce passage de Jérémie qui semblait peut-être un peu déconnecté et qui nous dit que le cœur est tortueux par-dessus tout. Donc ces hommes, nous ne devons pas nous confier en eux parce qu'ils sont des pécheurs. Ensuite, nous ne devons pas nous confier en eux car ils sont mortels. C'est ce que nous dit le verset 4 de façon presque ironique. Il dit « leur souffle s'en va ». Ces grands hommes politiques, ces grands rois, ces présidents, ces premiers ministres, ils vont tous mourir, ils vont devenir poussière, ils vont retourner à la terre dont ils viennent. Et avec eux, tous leurs desseins et tous leurs projets périssent. Et enfin, le texte de Jérémie promet une fin tragique à ceux qui se confient dans l'homme. Parce qu'en faisant ainsi, ils se détournent de Dieu. Et voyez ce qu'il dit. « Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend plaisir, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. » Qui détourne son cœur de l'Éternel. Se confier dans l'homme, ça amène à détourner son cœur de l'Éternel. « Il est comme un misérable dans le désert et il ne voit point arriver le bonheur. » Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée sans habitants. Quel triste sort. Cela ne veut pas dire que nous ne devons pas honorer les dirigeants. Romains 13, 7 nous dit que nous devons rendre honneur à qui nous devons l'honneur. Ça vaut pour tous les dirigeants, les présidents, premiers ministres, les préfets, les députés, tous ces gens qui sont au-dessus de nous, et qui ont une autorité sur nous, la police bien sûr. Mais le texte de Romains ne parle pas de confiance. Le texte ne nous dit pas « vous devez mettre votre confiance dans les dirigeants ». Il dit « vous devez leur rendre honneur ». Et je trouve que Spurgeon, le célèbre prédicateur Charles Spurgeon, fait une remarque sur ce psaume, sur ce plan de la confiance qui est extrêmement pertinente. Il dit « ce n'est pas nous qui devons mettre notre confiance dans les grands, dans les dirigeants, mais c'est eux qui doivent pouvoir mettre leur confiance en nous, les chrétiens. Nous, les chrétiens, devons être caractérisés par le fait que les dirigeants, quels qu'ils soient, qu'on les aime ou pas, les Macron, les qui vous voulez, ils doivent pouvoir se dire, les chrétiens, je peux mettre ma confiance en eux, parce qu'ils sont des citoyens honnêtes, qui respectent la loi de Dieu, ils payent leurs impôts, ils vivent paisiblement, ils élèvent leur famille, ils travaillent, ils respectent les lois, évidemment, dans la mesure où elles ne viennent pas en contradiction avec la loi de Dieu. Donc méditons bien cela. Nous ne devons pas mettre notre confiance dans l'homme, en particulier dans on a parlé ici des hommes politiques, des dirigeants, mais eux doivent pouvoir mettre leur confiance en nous. Et ça, c'est vraiment très important. Il faut que le témoignage chrétien, c'est de savoir, et ça l'a toujours été à travers tous les temps, on pourrait remonter dans l'histoire, les dirigeants savaient
qui pouvaient mettre leur confiance dans les chrétiens. Par exemple, dans la France protestante, la France du XVIIe siècle, où les protestants étaient persécutés, malgré la persécution, il était connu que le roi pouvait mettre sa confiance en eux. Donc, suivons cet exemple. Le verset 3 donc, dit « Nous ne devons pas mettre notre confiance dans les grandes ce monde », il parle bien des grandes ce monde, et il élargit également au fils de l'homme. Alors quelqu'un dira, cela veut-il dire que je ne dois pas mettre ma confiance dans mon pasteur, par exemple ? Et la parole nous montre que des hommes de Dieu, les plus dignes de respect, ne sont pas à l'abri de l'erreur. Par exemple, Paul rapporte dans l'Épître aux Galates que Pierre lui-même a failli. Par peur des hommes appelés les judaïsants, il a évité de manger en public avec des chrétiens d'origine païenne, et Paul a été obligé de le reprendre sévèrement. Et ce qui est grave, c'est qu'à cause de l'autorité et de la stature de Pierre, il a emmené avec lui Barnabas dans son péché. Barnabas, il avait mis sa confiance en Pierre et non pas dans la saine doctrine. La bonne attitude est celle des chrétiens de Bérée. Les chrétiens de Bérée, ils écoutaient Paul avec joie, mais ils vérifiaient dans l'Écriture que ce que Paul disait était vrai. Mais je m'empresse de mesurer mon propos, de peur de basculer dans l'excès inverse. La parole nous dit également, et très fortement, que Dieu nous a donné des pasteurs et des docteurs pour le perfectionnement des saints. Leur rôle est fondamental. La parole dit qu'ils sont dignes d'un double honneur. Paul va jusqu'à dire, soyez mes imitateurs. Paul, qui était un homme pécheur, comme nous le sommes tous, il dit, soyez mes imitateurs. Il dit aussi, regardez à ceux qui se conduisent suivant le modèle que vous avez en nous. Donc il dit, soyez mes imitateurs et imitez ceux qui m'imitent. Mais pourquoi ? Pas parce que Paul était en lui-même digne de confiance, mais parce qu'il est l'imitateur de Christ, que nous trouvons également. Il dit également, je suis l'imitateur de Christ. Notre confiance ultime n'est donc pas dans ces hommes de Dieu, mais dans le Dieu qui leur a donné leur ministère et dans la parole de Dieu qui nous enseigne et nous explique. Et soyons bien clairs, les épîtres de Paul ou de Pierre sont absolument sans erreur. Nous croyons qu'elles sont parfaitement inspirées, qu'elles font pleinement partie de la parole de Dieu, ou tous les textes écrits dans la Bible qui ont tous été écrits par des hommes, tous des pécheurs. Mais ces textes sont dignes de confiance, non pas à cause de la valeur personnelle de leurs auteurs, Pierre, Paul ou Jérémie ou Ésaïe, mais parce qu'ils sont inspirés de Dieu. C'est l'inspiration divine qui fait que ces textes sont entièrement dignes de confiance. À partir du verset 5, le psaume prend une tournure un peu différente du passage de Jérémie. Alors que le passage de Jérémie décrit, qu'on a lu tout à l'heure, il décrit les bénédictions qui attendent l'homme qui se confie en Dieu, notre psaume il va expliquer pour quelles raisons l'homme qui se confie en Dieu est heureux. Et toutes ces raisons, elles sont fondées sur la nature de Dieu. Pourquoi ? Et il dit, heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob. Pourquoi est-il heureux ? Eh bien, à cause de la nature de celui sur lequel il se confie. L'homme n'est pas digne de confiance parce qu'il est pécheur et mortel, mais Dieu est digne de confiance pour toutes ses perfections et parce qu'il est éternel. Et c'est ça dont il va nous parler. Alors, verset 5. Heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, qui met son espoir en l'éternel, son Dieu. Tout d'abord, il est le Dieu de Jacob. Et c'est une chose que nous ne devons pas, sur laquelle nous ne devons pas passer trop rapidement. Cette expression « Dieu de Jacob » nous renvoie à l'alliance que Dieu a faite avec Abraham, dont Jacob est le petit-fils et l'héritier de cette alliance. Et Dieu a répété la promesse de l'alliance abrahamique, il a répété à Jacob, exactement mot pour mot. En Genèse 28, 14, alors qu'il faisait chemin vers Aram, il lui a dit « Toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. » Et en ta postérité. Et nous savons que cette postérité au singulier, c'est Christ. Cela nous est révélé par Paul en Galates chapitre 3. Nous savons que nous sommes nous-mêmes la postérité d'Abraham par Christ. Puisqu'il nous dit, Paul nous dit en Galates 3, 29, « Si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. » Donc, le Dieu de Jacob, c'est le Dieu d'une alliance qui nous est promise et dont nous héritons. L'auteur de l'Épître aux Hébreux Et au chapitre 6, il parle de cette promesse de Dieu à Abraham. Il insiste fermement sur le fait qu'elle est immuable parce que Dieu ne ment point, et il la compare à une encre de l'âme sûre et solide. Et il dit que nous devons trouver en elle un puissant encouragement. Donc si nous avons pour Dieu le Dieu de Jacob, nous sommes heureux car nous sommes au bénéfice de la promesse de salut donnée pour nous à Abraham, qui est une promesse éternelle et immuable. Ensuite, le texte nous dit « Heureux celui qui met son espoir en l'Éternel », c'est-à-dire en Yahweh dont nous avons parlé tout à l'heure. Yahweh est celui qui est. En lui se trouve la source de tout ce qui est. Toutes les autres choses ont été créées, mais lui, il est incréé. Il est le seul être qui est par lui-même. Et c'est de lui que nous devons tirer notre être et notre existence. Paul dit, nous avons en lui la vie et le mouvement et l'être. Quand nous nous confions en l'Éternel, nous nous confions dans la source de toute chose, la source de la vie. Celui en qui nous avons la vie, le mouvement et l'être. Verset 6. Il a fait les cieux et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Il garde la fidélité à toujours. Nous avons vu que l'expression Yahweh désigne Jésus, en quelque sorte. Elle désigne Jésus, c'est lui-même attribué ce titre. Et le verset 6 décrit une des activités de Jésus, qui est l'activité de création. Il a fait les cieux et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. En effet, en Jean 1,3, nous voyons que Jésus est appelé la parole, et il est dit que toutes choses ont été faites par la parole, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Colossiens 1, verset 16, nous dit qu'en lui, donc en Jésus, ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles, les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Enfin, Hébreux 1, 3, parlant toujours de Jésus, nous dit qu'il soutient toutes choses par sa parole puissante. Ces versets, ils parlent de la puissance de Christ et de son parfait contrôle de la création. C'est lui qui nous a créés, c'est lui qui nous maintient en vie à chaque instant, et non seulement pour nous, mais le monde dans lequel nous vivons, la nourriture que nous mangeons, les maisons que nous habitons, etc. Donc, nous nous confions dans Jésus le Créateur, qui nous a créés, qui a créé le monde dans lequel nous vivons et qui soutient toutes choses par sa parole puissante. Et pourquoi on peut mettre notre confiance en lui, en ce Dieu si puissant? Parce que le texte nous dit qu'il garde sa fidélité à toujours. Verset 6, il garde sa fidélité à toujours. Quelqu'un qui est fidèle, il est digne de confiance. Les passages qui célèbrent la fidélité de Dieu sont nombreux dans les psaumes. Par exemple, 57,11, ta bonté atteint jusqu'aux cieux et ta fidélité jusqu'aux nues. Et fidélité à quoi? Fidélité en particulier à son alliance et à sa promesse. Je cite encore Hébreux 10, 23. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Voilà, ensuite on a trois versets, donc qui continuent à célébrer les perfections de Dieu et qui doivent nous encourager à mettre en lui notre confiance. Donc trois versets, 7, 8 et 9, que je vais lire pour vous. Il fait droit aux opprimés, il donne du pain aux affamés, l'Éternel délivre les captifs, l'Éternel ouvre les yeux des aveugles, l'Éternel redresse ceux qui sont courbés, l'Éternel aime les justes, l'Éternel protège les étrangers, il soutient l'orphelin et la veuve, mais il renverse la voie des méchants. Ces versets contiennent 7 activités de miséricorde. 7 activités de miséricorde, plus un contraste entre le fait que l'Éternel aime les justes et renverse la voie des méchants. Et avant de les regarder un peu plus en détail, je voudrais faire deux remarques. Tout d'abord, il y a dans ces versets une profusion d'attributs de miséricorde. Une profusion d'attributs de miséricorde. Ça nous parle des tendres soins de Dieu, en particulier envers ceux qui souffrent. Il fait droit aux opprimés, il donne du pain aux affamés, il délivre les captifs, il ouvre les yeux des aveugles, etc. Et nous devons réaliser combien notre Dieu est marqué par la miséricorde et la compassion vers ceux qui souffrent. Cela doit nous encourager. On a ici vraiment le cœur de Dieu envers sa création et envers nous, ses enfants. Deuxièmement, on veut remarquer que plusieurs de ces choses ont été dites de Jésus, presque mot pour mot, et également réalisées par lui. C'est très frappant. Et je vous demande d'ouvrir vos Bibles dans Luc, chapitre 4. Luc, chapitre 4, qui cite, en fait, le livre d'Ésaïe. Luc, chapitre 4, au verset 18. Et en lisant ces versets, réfléchissez à ce qui vient d'être dit de Dieu dans le psaume. Luc, chapitre 4, verset 18. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Et verset 21, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Quatre des activités qui sont citées dans le psaume se retrouvent dans le texte qu'a prononcé Jésus. C'est celle qui concerne les opprimés, les captifs, les aveugles et ceux qui sont courbés, qu'on pourrait associer à ceux qui ont le cœur brisé. On a donc ici une indication que ce psaume nous parle vraiment de Jésus. Car tout ce dont il parle est réalisé en Jésus. Et on a encore ici une autre preuve que Jésus est Yahweh, car c'est l'Éternel que le psaume, c'est à l'Éternel que le psaume attribue ses activités. Maintenant, on va les regarder brièvement. Il donne du pain à ceux qui ont faim. À deux reprises, Jésus a nourri les foules affamées de façon miraculeuse. Et c'est aussi lui qui met du pain sur nos tables tous les jours. C'est pour ça qu'on prie dans la prière du Seigneur, « Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour ». Et c'est spirituellement, il nous nourrit également tous les jours. Car l'homme ne vivra pas de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. L'Éternel ouvre les yeux des aveugles. Ça, nous savons que c'est quelque chose que Jésus a fait à de nombreuses reprises, physiquement, et de façon spectaculaire et miraculeuse. Mais il le fait aussi spirituellement. Hein, en ce qui nous concerne tous, nous avons notre cher frère Hassen qui est malvoyant, mais la plupart d'entre nous avons une bonne vue, mais nous n'avons pas une bonne vue spirituelle. Et le Seigneur a ouvert la vue aux aveugles spirituels que nous sommes, et c'est ainsi que le célèbre cantique de John Newton peut dire « J'étais aveugle et maintenant je vois ». Le cantique Amazing Grace. L'Éternel fait droit aux opprimés, l'Éternel délie les captifs. Contrairement au miracle donc sur le pain ou les aveugles, Jésus n'a pas réellement délivré des captifs physiquement. Mais nous savons qu'il est venu nous délivrer de nos ennemis. Et nos ennemis, c'est le péché, la mort, Satan et la condamnation de la loi. Et ça, nous savons qu'il l'a fait. Hébreux 2, 14 et 15 nous dit, en parlant de Jésus, que par sa mort, il a anéanti celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et il a délivré tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Ensuite, verset 9, le texte nous dit que l'Éternel garde les étrangers et il soutient l'orphelin et la veuve. Dieu a un souci particulier pour les faibles qui souffrent. À l'époque de Jésus, plus encore qu'à la nôtre, être une veuve était une situation terrible. Il n'y avait pas de sécurité sociale. La veuve, lorsqu'elle perdait son mari, perdait la protection que lui donnait son mari, le travail qu'il avait. Les femmes n'avaient pas la force de travail des hommes. Et comme la mortalité était élevée, ces situations devaient être fréquentes. Nous voyons que Dieu prend souvent soin des veuves. Il prend soin de la veuve de Sarepta par l'intermédiaire d'Élie. Nous avons aussi ce magnifique passage dans Luc chapitre 7 où Jésus ressuscite le fils de la veuve de Naïn. Et le passage nous dit que Jésus fut ému de compassion pour elle et qu'il lui dit « ne pleure pas ». Et cette scène était vraiment poignante. On imagine cette pauvre femme qui avait perdu son mari. Et voilà maintenant qu'elle perd son fils unique qui aurait pu la soutenir. En plus, évidemment, du drame de la mort de son fils bien-aimé. Elle va se trouver dans la misère. Jésus a une profonde compassion pour cette situation, une profonde compassion pour les veuves et les orphelins. Et quant aux étrangers, Quant aux étrangers, la loi de Dieu nous insiste sur leur protection. Dans Exode 22, 21, parmi d'autres très nombreux passages, il est dit ceci, « Tu ne maltraiteras point l'étranger et tu ne l'opprimeras point, car vous avez été étrangers dans le pays d'Égypte. » Dieu sait qu'un étranger est fragilisé, il ne connaît pas les lois, il ne connaît pas les coutumes, la langue du pays, il peut se trouver en butte à l'hostilité. Encore une fois, dans sa compassion, Dieu prend soin des faibles. Versets 8 et 9, l'Éternel aime les justes, mais il renverse la voie des méchants. Donc on a ici en résumé, le jugement de Dieu. Dieu, c'est un juste juge. Les méchants seront punis. Hein, il renverse la voie des méchants, un jour ou l'autre, parfois dans ce monde et dans tous les cas, dans le monde à venir. Leur voie, dit-il, sera renversée. Et en contraste, Dieu aime les justes. Il leur donnera le royaume qu'il a préparé pour eux avant la fondation du monde. Mais livrés à nous-mêmes, nous savons tous que nous appartenons à la catégorie des méchants. Car la parole nous a dit, comme nous l'avons vu, que notre cœur est tortueux par-dessus tout et qu'il est méchant. Mais par la voie en Christ, nous sommes transférés, nous qui sommes méchants, dans la catégorie des justes. Non pas que nous soyons justes en nous-mêmes, mais parce que notre péché est imputé à Christ et que sa justice nous est imputée. Et ce n'est sans doute pas par hasard que ces références aux justes et aux méchants sont mélangées aux attributs de miséricorde de Dieu que nous venons d'étudier dans les versets 7 à 9. Et en particulier le verset 9 sur les étrangers, la veuve et l'orphelin, qui sont finalement des actes de miséricorde qui sont plus à notre portée que ouvrir les yeux des aveugles, par exemple. Et on a vu que la loi de Dieu nous incite à la miséricorde envers l'étranger et envers la veuve et l'orphelin. Jacques nous dit, chapitre 1, verset 27, que la religion pure et sans tache, devant Dieu notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Et donc, le texte nous dit que Dieu aime les justes, et nous savons que nous sommes justes, non pas en nous-mêmes, nous le sommes parce que la justice de Christ nous est imputée, mais si nous sommes justes, nous devons imiter Christ et produire en nous un certain degré de justice réelle. Et il a cité ici un ensemble de choses que nous devons faire pour montrer cette justice. Il ne s'agit pas de nous sauver nous-mêmes, nous sommes sauvés par la justice de Christ qui n'est pas la nôtre, mais il s'agit de le glorifier. Et c'est pour ça que nous devons produire cette justice, afin de le glorifier. Et rappelons-nous que Jésus, la Bible est claire là-dessus, nous jugera à la fin des temps sur nos œuvres, au jour du jugement, car elle dit par exemple, « Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas dans le royaume de Dieu, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Et j'en termine brièvement avec le verset 10, mais ce verset est magnifique. Verset 10, « L'Éternel règne éternellement, ton Dieu au Sion subsiste d'âge en âge, loué l'Éternel. » Donc le psaume, il se termine sur la vision de la fin des temps, le règne éternel de Christ. C'est une autre raison pour mettre sa confiance en Christ, parce qu'il est éternel, alors que l'homme est mortel. Le meilleur des grands de ce monde est mortel. Même le grand roi David est mort. Mais le fils de David, règne déjà. Il règne déjà et il règnera éternellement dans la Jérusalem céleste et nous régnerons avec lui. Et en attendant, comme nous invite le psalmiste, louons-le par nos vies et également par nos prières. Amen.